Vous écoutez
RMC.
Paris, c'est magique, et ici c'est Paris, ça restera toujours le club de mon cœur.
RMC, l'afterfoot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Il est 23h04, Daniel Rieu est là, Florent Gautreau est là, et Jean-Victor toujours avec nous à Budapest. Manu,
oui.
On va te dire au revoir.
Yes.
J'espère que tu as quand même passé une bonne soirée.
Bah oui et non. Voilà, je vais être honnête avec vous comme d'habitude. Non Daniel, même quand tu tapes pas le micro ouvert, tu parles.
C'est bah facile. Non, mais moi je dis que je te comprends, c'est ton club de cœur et il n'y a aucune raison que les gens t'obligent au PSG. T'es Arsenal, t'es gunner,
non,
t'es
c'est
gunner.
Pas pour, c'est pas pour
t'es
ça.
T'es un gunner, c'est tout.
Oui d'accord, je suis un gunner, c'est vrai, mais c'est pas pour ça. C'est parce que j'ai envie de rentrer chez moi, tu vois. Vu ce qui se passe ce soir dans la ville,
oui, là,
j'ai pas envie de me retrouver en train de dormir sur les quais. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc passez une bonne soirée. Vous l'avez bien mérité, les Parisiens. Félicitations à vous. Mais moi, je me casse. Salut.
Salut, Manu. Bonne soirée. Bon, je voudrais quand même qu'on évalue un peu plus finement le match de Dembélé.
Ah, pardon. Tu veux
d'accord. Oui, là, parce qu'il y a le pénalty. Après, il est sorti sur blessure. Alors, sur la blessure, je pense qu'on peut être relativement serein. Parce qu'après, on l'a vu courir avec la coupe. Je veux dire, s'il avait vraiment mal au mollet, je pense que.
Oui, peut-être t'es serein.
Bah, si tu peux courir avec la coupe, c'est que t'as pas mal au mollet.
Moi,
top, oui, Cédric.
Moi, je vais attendre un peu.
Cette rencontre incroyable.
Oui, Cédric.
Merci beaucoup.
Et voilà, les sentiments seulement peuvent être positifs, d'être dans un rêve et rien, très content, mais c'est clair. Mais premier de tout, je voudrais souligner une chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a été avec Warren très injuste en tant qu'entraîneur parce qu'il mérite de jouer cette finale. Il a fait de tout, il a montré sa personnalité, il a accepté mon décision et pour moi ça a été très injuste. Mais il a montré les minutes qu'il a joué qu'il est un vrai professionnel et une personne très spéciale. Et je voudrais souligner ça. Après on a fait, je pense, une finale de très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque le premier but dans une action dans les premières 10 minutes. Ça a été le plan parfait pour eux. Et pour nous, a été compliqué, spécialement les premiers mi-temps. On n'a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu les deuxièmes mi-temps. Mais quand tu fasses une équipe comme Arsenal qui le font en bloc bas parfaitement, ils sont très forts physiquement et techniquement, c'est difficile de surmonter. On a pu faire les matchs nuls et après, je pense qu'on a eu des chances pour gagner les matchs, mais à la fin, c'était back-to-back, a été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fier de nos supporters, très fier de tout le monde qui supporte l'équipe, de les clubs. Et, mais on est très content et c'est le moment de faire la fête.
Bon, on en parlera de Warren Zaïre-Emery dans quelques minutes. Hein. Mais attends, d'abord écoutez encore une ou deux réponses.
La volonté de faire le back-to-back, la deuxième étoile, est-ce que là, déjà ce soir, vous pensez complètement, déjà carrément à la troisième étoile?
C'est clair que des objectifs à préparer, on a les temps. C'est le moment de les vacances, d'arriver à l'été. L'année dernière, on avait marqué l'histoire, mais. Et on avait joué le Mondial des clubs et ça a été très difficile et très dur. Dans ce moment, la majorité des joueurs ils vont aller avec l'Air National et c'est une compétition de très haut niveau. Mais pour nous, en tant que staff, excusez-moi, on va profiter cet été, clairement. Mais il y aura des moments pour parler de les. Back-to-back-to-back, a dit Luis Campos. On est content d'avoir des objectifs à la hauteur de nos supporters, à la hauteur de cette club et à la hauteur de la ville.
Vous voulez encore une réponse? Bonsoir. Peut-être
bah, si, comme tu veux.
Luc Tanzi pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu cette séance de tir au but du banc de touche, comment vous avez décidé aussi des tireurs qui allaient tirer, s'il vous plaît?
Pour décider les tirer, on fait comme d'habitude. Il y avait, si c'est vrai, des bouteilles, ils sont choisis par eux, qui étaient les plus préparés. Après, on a confié beaucoup sur Mocha, il est un vrai spécialiste et on savait de sa qualité et capacité à mettre un problème à les adversaires. Et j'ai vu le songe de tir au but avec tranquillité, avec beaucoup d'envie de que c'est fini déjà, parce que ça a été un match très, très dur, très serré, de beaucoup de souffrances, parce que chaque fois qu'il y a une coupe de pied arrêtée, tout est face l'équipe plus forte de l'Europe ou du monde. Mais j'ai dit, mais je pense qu'on a cherché à porter les matchs à ce que nous sommes meilleurs. Et je suis très content. Je pense qu'on a mérité aujourd'hui, et aucun des équipes mérite de gagner ce match. Mais si j'analyse, si j'ai juste toute la saison et toutes les difficultés qu'on a eues dans la Champions League avec ce calendrier, je pense qu'on mérite clairement de gagner notre deuxième Champions League.
Voilà pour Luis Enrique. On continue d'écouter en coulisses. Jimmy Brown s'en occupe, donc on pourra, s'il dit des choses importantes, les relayer. Sur Warren Zairemi, c'est assez étonnant quand même. Bah, discours, il démarre en parlant du gars qu'il a sacrifié.
C'est ça. Et je trouve que pareil, c'est dans la communication et dans la vie de groupe, c'est très très fort.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'en élément de langage de premier, tu pourrais dire oui, c'est historique. Je croyais qu'il allait dire à supporters, parce qu'il fait très très vite les supporters souvent. Mais là, il a pris ce cas et c'est marrant parce que j'ai fait un avis. Alors tu sais que ça a déclenché des tonnes de trucs sur le thème. Mais t'as un bouffon. Le meilleur latéral du monde, c'est Hakimi. J'ai pas dit, le débat n'était pas quel est le meilleur latéral du monde. Le débat était, est-ce que si Hakimi n'est pas à 100%, et je maintiens que moi je n'ai pas vu non plus ce soir un Hakimi, j'ai vu un Hakimi ultra courageux, mais je pense pas qu'il soit à 100%, il est pas aussi fort que l'an dernier, est-ce que Zaire Emery ne mériterait pas de jouer? Peu importe, ils ont gagné avec Hakimi, je suis très content pour Hakimi et j'espère qu'il fera une grande Coupe du Monde avec le Maroc. Mais néanmoins, je pense que c'était un des points majeurs, et Luis Enrique vient de le dire, effectivement, très dur dans la compo et dans l'hésitation qu'il a dû avoir. Et je trouve très fort de la part d'un entraîneur, après une deuxième Ligue des Champions, une deuxième étoile, de venir en première réponse dans une conférence de presse, souligner le professionnalisme d'un joueur, et par-delà, à travers ça, la force de ce collectif qu'il a su créer. Parce que c'est effectivement un Zaïre Emery qui est entré. D'ailleurs, sur ces deux, c'est-à-dire l'intensité du match, sur ses deux premières prises de balle, pour le coup, c'est un peu galère. Il a un tout petit peu de mal au tout début, puis après, il est là, il est dedans. Effectivement, je trouve que c'était un des enjeux, c'était ce que je voulais souligner simplement dans mon avis tranché, c'était un des enjeux de cette compo. Bon, ben voilà, il a mis effectivement les 10 de l'an dernier, et je comprends pourquoi. Mais effectivement, je pense que l'un des grands artisans
parce
de la saison...
Parce qu'il a cette équipe qui envoie comme un signal que... c'est cette équipe qui est invincible, c'est cette équipe qui répond à tout, c'est cette équipe de fidèles, et c'est là d'ailleurs qu'on voit que oui, le turnover doit servir pour que ce 11 là soit au top sur le grand match. En fait, le turnover lui sert à ça, à ce que les mecs qui composent son équipe type soient au top physiquement pour pratiquer le football qu'il veut.
Ou au moins le plus longtemps possible, parce que certains avaient 60-70 minutes, genre Dembélé et les autres.
Et toute la première partie de saison, on a vu que ça. Le turnover sert les intérêts du 11 type. Il y a un 11 type, il l'a depuis mars de l'année dernière, on le sait.
Après,
je ne trouve pas de mal à ça, puisque c'est justement ce que je réclamais depuis toujours. Moi, je trouve que justement, c'est ça qui est devenu formidable. Toutes les équipes qui ont gagné, qui ont enchaîné les grands succès, ça a toujours été 11, 12, 13 joueurs, 14, mais grand max.
Après, juste sur Zaïre Emery, je trouve que sur cette saison et sur ces deux dernières saisons, tu sais, où il est passé par tous les états, retour en équipe de France Espoir, gros doute sur sa progression personnelle. Je trouve que c'est un rétablissement incroyable et une très bonne nouvelle pour les Bleus.
Ça, c'est sûr.
Parce que la saison, plus ce qu'il a fait là, bon, y compris la finale dans laquelle il est entre guillemets seulement entré, ce sera un atout de poids pour les Bleus dans la Coupe du Monde et pour des Champions.
Mais je vais aller plus loin sur ce que je disais. C'est pour ça que je défendais l'idée qu'il ne fallait pas recruter. C'est que moi, je ne crois pas à l'idée que tu vas aller recruter un joueur vedette. Par exemple, prenons le trio offensif. Doué, Dembélé, Kvara. Qui tu peux aller prendre comme, on va dire, joueur vedette que tu vas faire en transfert à 60 millions qui va accepter d'aller sur le banc? Pour moi, ça ne peut pas exister dans le football, ça. Ça ne peut pas exister, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je comprendrais parfaitement qu'à un moment, Barcola dise « Bah moi, je ne peux plus être le remplaçant, je vais aller voir ailleurs. » Mais moi, j'ai envie d'aller lui serrer la main et de lui dire « Je te comprends, mec, et ce que tu as fait au PSG, merci parce que tu as tout donné. » Je t'ai pas toujours trouvé formidable, mais t'as tout donné. t'as été un gars. Et donc, on va en prendre un autre qui aura un profil, mais pour jouer beaucoup de matchs, parce qu'au final, il jouera les 30, 40 matchs.
C'est ce que je
il sera important sur un domaine. Mais ça ne sera pas un titulaire capable de rivaliser avec Varadou et Dembélé. C'est pas possible.
Moi, je pense qu'il y a quand même. Alors, admettons que cette thèse, et je t'ai dit, elle est validée, et t'avais, là-dessus, t'avais raison, et sur le fait de ne pas recruter, moi, je pensais que ça serait trop dur pour, d'aller au bout avec cette thèse-là. En revanche, maintenant, parce que. Si tu veux aller vers la suite, vers
la
l'avenir.
Ouais.
Et bah, vers l'avenir,
moi
vers l'avenir pour le coup, et quand bien même tu aurais un joueur qui ne jouerait pas tous les matchs, je pense à Julian Alvarez par exemple. Tu vois, je te prends cet exemple-là, tu vois, qui est un gros joueur.
Moi je sais pas.
Non, mais je te dis juste que Luis Enrique a un totem d'immunité et une force telle que dans la discussion avec un joueur aujourd'hui, s'il veut, il a Luis Enrique, il dira, le joueur sait, parce que Luis Enrique le lui dira, personne, Agvara, il a dit pareil, je pense, tu n'es pas certain, non, Luis Enrique ne dit pas Agvara, t'es sûr d'être titulaire. Ah non, mais je suis sûr et certain.
Mais pas Luis Enrique.
Regarde, même Dembélé, ah peut-être, ça c'est autre chose. Moi je te dis que le coach qu'il est, la force qu'il a avec ses deux étoiles encore plus, est capable de dire à Julian Alvarez qu'il peut refuser.
Mais t'as introduit la phrase la meilleure phrase.
Sauf que moi, je te dis juste que là maintenant que le projet évolue et que Dembélé, va pas être éternel, par exemple, au PSG. Je parle sur les deux prochaines saisons. Eh ben, si t'as Julian Alvarez en lui disant, c'est peut-être toi dans deux ans qui sera le vrai titulaire à 400%. Mais là, sur la première, sache qu'ils ont tourné à quatre, les mecs, malgré tout, même si effectivement il y en avait trois qui se détachaient. Et qu'ici, Dembélé lui-même te le dira, s'il est pas bon, il sort.
T'as tout dit quand t'as dit s'il accepte. Mais est-ce qu'un joueur comme lui peut accepter de venir dans ces conditions-là?
Non, sauf que la grande question. Alors, je suis d'accord. Sauf que la force de ce PSG de Luis Enrique,
c'est de séduire malgré ça.
Et c'est de savoir que tous les joueurs du monde savent, parce que tous les gars en sélection disent aux autres, et vous savez, Luis Enrique,
on s'éclate et tout.
Non, c'est pas qu'on s'éclate, c'est genre, si t'es pas bon et si t'es machin, tu joueras pas.
Ouais, mais
il est capable de te mettre sur le banc pendant 10 matchs de suite.
Flo, si t'avais une ligue comme en Angleterre ou un truc comme ça, ok, tu le fais venir.
Ouais.
Mais comme t'as la Ligue 1. Si le mec, c'est tu vas mettre 15, 20 buts en Ligue 1, machin, mais quand t'arriveras le gros match en Ligue des Champions, celui que tout le club attend, qui va mettre le feu au parc et tout, au mois de février, au mois de mars, machin et tout, c'est pas toi qui va jouer, à moins que Dembélé soit blessé, avant de le déplacer ce jour-là.
Si le mec a du mental, il va dire je vais gagner ma place.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème à ça. Moi, je trouve que c'est très bien de garder ça et que le seul rendez-vous qui doit être valable, c'est de prendre les
Jean-Louis
trois.
Jean-Louis a patienté, laissez-lui la parole un peu, s'il vous plaît.
Ces mecs-là, tu vas les voir, tu dis les gars, on y va pour la troisième ou pas? Vous avez encore envie ou vous avez envie, ce qui est parfaitement légitime, vous voulez d'une nouvelle aventure, parce que deux, c'est formidable, parce que vous avez laissé une trace indélébile au club. Je sais pas, moi, Doué, visiblement, il a envie, il adore le PSG, il a envie de rester et tout. Mais prenons Dembélé, je sais pas, bon, même si lui, il a dit 100%, je reste. Mais si demain, il disait, bah ouais, j'ai envie, je sais pas, parce que quand j'étais petit, je kiffais d'aller en Angleterre et tout, je vais y aller. Mais mon vieux, t'es tellement extraordinaire, tu resteras mythique au PSG. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Parce que je ne sens pas la dalle chez toi de rester. Mais si les mecs disent, on veut la troisième, on veut rester, on va être à fond, eh ben, tu vas prendre une retouche. Tu vas prendre un mec qui acceptera, ou tu vas avoir dans tes jeunes un mec qui jouera la rotation en Ligue 1, parce que la Ligue 1 est ce qu'elle est. Tu joueras la Ligue 1, il n'y aura aucun problème. Mais quand arrivera le grand match de Ligue des Champions, on fera tout dans le calcul du temps jeu pour qu'on ait nos trois titulaires.
Bon, Jean-Louis, Esteban Lepol.
C'était une sacrée fin de phrase, en tout cas. Je note. Non, mais globalement, j'étais assez d'accord. Je suis bien sûr d'accord avec vous. Le seul truc que je veux ajouter, c'est qu'il y a un autre truc que cette saison a mis en lumière, c'est que c'est difficile aussi d'intégrer cette équipe quand c'est voulu. Parce qu'il y a quand même eu deux recrues l'été dernier. Il y a eu Chevalier, il y a eu Zabarni, recrutés pour 100 millions les deux. Et à l'arrivée, il s'est avéré que c'est très dur d'intégrer cette équipe. Et la
Zabarni, on savait que c'était pour Marquinhos et que l'année prochaine, il y a des chances qu'il soit titulaire.
C'était pour le concurrencer. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu de concurrence du tout sur les matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas eu le moindre doute dans l'esprit de Luis Enrique. Donc je pense, et pour aller dans ton sens, que si la question va se poser sur des remplaçants, parce que certains vont partir, et donc je pense quand même qu'il va y avoir un peu plus de renouvellement cet été qu'il y en a eu l'été dernier. Mais il ne va pas falloir se rater sur les recrues et sur ces remplaçants, parce qu'il y a un moment donné dans la saison où ils auront leur rôle à jouer. Même hors des 11 titulaires.
Jean-Baptiste au 32-16 est avec nous. Jean-Baptiste, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut Jean-Baptiste. Alors on est en pleine évaluation. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Dembélé, toi?
Bah en fait, j'ai pensé, comme un peu à l'image du reste de l'équipe, parce que contrairement, de la même façon que l'année dernière, il était difficile de ressortir un meilleur joueur et que tout le monde a été d'accord pour dire que c'était un collectif qui a gagné. Ben là, dans la difficulté, c'est difficile pour moi déjà de trouver un joueur qui sort du lot. Donc le match de Dembélé, je trouve qu'il est à l'image aussi du match de Guevara. Il est à l'image du match de Pacho. Alors Pacho, si on peut parler aussi des défenseurs, moi j'ai trouvé qu'on manquait un petit peu de sérénité derrière sur les dégagements. J'ai trouvé j'ai trouvé que chacun avait eu un moment de faiblesse et qu'en fait, ce qui a vraiment ressorti dans cette victoire, c'est que c'est le mental de cette équipe, du collectif, du fait de pas lâcher, d'être solidaires les uns pour les autres. En fait, c'est là où je vais rebondir sur ce que vous aviez dit jusqu'avant quant au choix des joueurs. Ce qui est bien par rapport à ce qui avait été fait avant et ce qui est construit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a un collectif fort et que Luis Enrique, s'il y a des joueurs qui veulent venir et des profils qui l'intéressent, et là il va leur poser la question: est-ce que tu es là pour t'intégrer toi dans ce collectif? Est-ce que tu vas accepter les choix que je vais faire et te mettre au service de l'équipe? Et ce qu'on a vu ce soir, et pour revenir sur l'évaluation de Dembélé, Dembélé il a fait le match qu'il a fait, mais il était à l'image de l'équipe, parce que ce qui nous a manqué ce soir, c'était là où on est très fort d'habitude, c'est le contre-pressing. On était quand même un peu loin des joueurs. Ça s'est un peu vu ce soir. On savait quel était le projet de jeu d'Arsenal. Moi, j'ai trouvé que ça s'était amélioré en deuxième mi-temps, parce que je l'avais dit quand je vous ai eu à la mi-temps. J'avais dit qu'en deuxième mi-temps, ça allait changer et qu'effectivement, on a remis un petit peu plus de pressing un peu plus haut. Dembélé, il a donné tout ce qu'il a pu. Moi, j'ai trouvé que déjà, c'était bien qu'il ait pu jouer 90 minutes quasiment et qu'au final... Allô ? Et qu'au final, Dembélé, je vous dis, son match il est mitigé, mais comme j'ai envie de dire, il était au niveau de l'équipe et il a donné tout ce qu'il a pu donner. Il a marqué ce penalty. J'ai trouvé que Barcola, quand il rentre, il a l'occasion de tuer le match. Bah Barcola, il est parti.
On n'a pas parlé de cette occasion de la 96e.
Ah, qui doit donner.
Non, alors, moi, il y a deux choses. Pas seulement la donner, il peut faire aussi crocher.
Sa conduite de balle n'est pas bonne, non, mais son contrôle n'est pas bon.
La dernière touche.
Mais si ta dernière touche t'amène pied gauche, qui est son cas, et alors que lui, il est droitier, il a moyen de faire crocher et de se remettre sur son droit. Je trouve qu'il choisit. Il choisit, comme tous ont choisi d'ailleurs, parce qu'Avert, ça marquait comme ça, il choisit sa frappe, tu sais, côté fermé, en disant ça va passer sous la barre. Mais juste pour revenir sur un truc par rapport à l'évaluation globale, puisqu'on a du mal, puisque c'est un collectif, on ne cesse de le dire. Moi, je trouve que cette année, ce qu'a gagné le PSG dans son histoire, dans l'histoire de ce groupe, c'est de s'être battu comme des chiens. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu ça autant l'année dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu autant de moments de match. Je repense à Liverpool, je le redis encore aujourd'hui. Je repense évidemment au Bayern et je repense à ce soir où tu as été, oui, effectivement, parfois un peu moins bon. J'ai vu un Pacho à un moment donné, là, dégager une grosse saucisse devant parce qu'il y a un mec qui lui a dit il faut y aller. Il y a plus
est-ce que le PSG
de solidarité.
A plus souffert l'année dernière.
Moi, je trouve qu'il a plus souffert cette année, mais qu'il a été défensif.
Cette année ?
Ouais, dans l'abnégation, dans le.
Mais attends, excuse-moi. L'année dernière.
Non, ils ont été dominés parfois, mais je trouve qu'ils ont.
Pardon. L'année dernière, le match de Liverpool, tu passes au péno.
Tu parles chaud.
Le parcours. Pour moi, l'année dernière, Liverpool, chaud. Aston Villa, 20 dernières minutes, bouillantissime. Arsenal, très compliqué. Finale, facile. Cette année, Liverpool. Je vois pas où on a souffert.
Ah si, au retour tu souffres. À un moment donné, je me souviens, on a parlé de la demi-heure dans la surface du PSG.
Rien à voir avec l'année dernière où tu perds l'aller et le retour, t'es le cul dans ta surface tout le match après l'ouverture du score. Chelsea cette année, pas de souffrance. Bayern, compliqué.
Bah oui, compliqué. À l'aller et retour.
Seul match.
Ouais.
Seul match.
Arsenal, très compliqué la finale. Ultra compliqué. Moi, je trouve. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ces vertus-là.
Je mets bout à bout, pour moi, le parcours de cette année.
Non, mais que les adversaires étaient. Aston Villa, sur certaines périodes, a été meilleur que le PSG, tu sais, dans le match retour aussi l'an dernier. Mais moi, c'est pas seulement d'être meilleur que le PSG, c'est que le PSG ait su, que ses joueurs tous aient su se mettre à un niveau de bleu de chauve, de baston, alors que tu avais déjà gagné avec des champions et que tu n'avais jamais gagné d'aller te mettre le cul par terre autant et d'être capable d'être aussi dans ce registre-là. Voilà, c'est tout. Ça fait aussi partie, je trouve, de la progression collective.
Jean-Baptiste, merci beaucoup en tout cas. Célèbre bien la victoire de ton club.
Je peux rajouter une toute petite dernière chose.
Vas-y.
Il faut souligner dans l'évaluation de Dembélé le très gros match de William Saliba. Je ne crois pas que vous en ayez beaucoup
Tu fais
parlé.
Bien de le dire, on ne l'a pas dit. Ouais. Saliba, il a été extraordinaire.
Saliba a été énorme et ça a été aussi la performance de Dembélé ce soir. Je trouve que c'est très bon augure pour l'équipe de France. Il a tenu la défense d'Arsenal et honnêtement, ce n'était pas gagné pour l'histoire avec les marques qu'on a beau foncé.
Une seule erreur, tu sais, dans la milieu de terrain qui donne l'occasion de Barcola, je crois.
Ouais.
Mais sinon, effectivement, très gros match. Non, on fait
Merci
Arsenal.
Jean-Baptiste. On se quitte quelques secondes, on a une pub à faire. Et ensuite, la parole est à Jean-Louis. Et Walid Acharchour va nous rejoindre. Nous aurons également Julien Laurence d'ici minuit. On est là jusqu'à minuit, en direct de d'Oppo, le restaurant de l'After à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Et ensuite, l'After continuera en studio avec Karine Galli, avec Elton Boccolo, Walid Acharchour et Maxime Chaloux. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Il est 23h27, Florent Gautreau et Daniel Riolo. Et là, on a également Jean-Louis Tour qui est à Budapest au stade. Et le Walid Acharchour qui nous rejoint. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ça va Walid.
Ça va très bien.
Bon, on est en pleine évaluation là. On a...
Il est où? Il est à Budapest, Walid?
J'ai l'impression qu'il est en train de manger.
Ah oui?
Non, je suis là.
Petite collation de 23h27.
Petite collation, j'ai pas.
Ah, tu as vu comme je connais là?
J'ai pas mangé depuis.
T'avais pas la voix fluide là, tu vois, j'ai senti que.
C'est vrai, Flo, tu m'as démasqué.
Okay. Bon, c'est normal, il faut se nourrir. Mm. Parce qu'en plus, tu vas aller loin dans la nuit, toi.
Ouais, petit ravitaillement.
Petit ravitaillement, très bien. On t'a pas encore entendu, donc on a dit plein de choses déjà depuis 2 heures, Walid. Mais si je devais te demander tes 3 points, tu dirais quoi?
Ah, mon premier point, c'est encore une fois la l'équation résolue par le PSG de Luis Enrique, c'est-à-dire que rythme lent, rythme rapide, Arsenal ou Bayern Munich, bah, ils arrivent à résoudre à la fin. Mon deuxième point, c'est la force individuelle qui n'était pas attendue. Moi, je pense à Marquinhos qui fait une belle finale, je pense à João Neves qui a été meilleur que Vitinha et Fabian Ruiz, et je pense à Doué aussi qui a été très très bon, qui je trouve qu'a fait une finale beaucoup plus régulière que Kvara et Ousmane Dembélé. Et mon troisième point, c'est Arsenal qui a complètement refusé le football, et je suis bien content que Arsenal ait perdu cette finale, parce que les intentions de jeu d'Arteta et de son équipe étaient beaucoup trop faibles pour gagner une Ligue des Champions.
Tiens, d'ailleurs, Julien Laurence devrait arriver d'ici peu. Jean-Louis Ostade.
Juste, je ne sais pas, parce qu'il y a un moment, j'écoutais pas, j'avais pas le retour. Vous avez parlé de Marquinhos avec Gabriel à la fin?
Non,
sur
on
le
en
penalty.
A pas parlé.
Ouais, cette image, elle est extraordinaire quand même.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Marquinhos, donc quand Gabriel rate le penalty qui offre la victoire au PSG, tous les Parisiens partent pour faire un tour d'honneur et tout. Lui, il va voir Gabriel, il attend avant, il retarde sa célébration, Marquinhos, pour aller voir son partenaire de sélection, le prendre dans ses bras et le réconforter alors qu'ils sont adversaires. Et ils vont faire la Coupe du Monde ensemble en défense centrale. Mais que Marquinhos ait cette pensée-là, alors que tous les joueurs ne pensent qu'à aller célébrer, je trouve que ça dit quelque chose de l'humanité.
C'est un mec incroyable, exceptionnel humainement, hein, je parle en dehors du foot, et tu as raison de souligner. Et il y a la déclat de Rice aussi sur les deux qui ont raté le tir au but, qui dit bah, qu'est-ce que je dis sur eux, on les aime, et c'est grâce à eux qu'on est champion.
Après, c'est un type formidable, mais c'est une image qui est assez banale, on la voit souvent. Le mec qui va prendre dans les bras un gars qui joue en sélection avec lui, adversaire, on l'a vu mille fois,
je suis pas sûr.
Mille fois, c'est peut-être un peu exagéré.
Bon, mille, c'est exagéré. C'est un truc dans le foot qui arrive.
Bon, Marquinhos, du coup, là, après ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'on fait de Marquinhos au PSG? Est-ce qu'on lui dit, bon, t'as été exceptionnel, bravo, t'es un gentleman, t'es.
Mais moi, je comprends pas qu'on se pose la question à chaque fois, surtout.
Eh ben, non, mais tu fais quoi? Tu gardes?
Mais bien sûr, Marquinhos, c'est l'ami du club.
Et tu lui fais faire que les matchs de Ligue des Champions comme cette année?
Mais bien sûr, quel est le problème? Il a quand même eu le niveau sur les matchs de Ligue des Champions. Il n'a pas été en difficulté à chaque fois. Hein. Il a été en difficulté quand dans le plan de jeu, il était en 1 contre 1 avec un mec plus rapide que lui. Bien souvent, Luis Enrique, il a corrigé, il a fait en sorte que ce soit pas le cas.
Mais si
et à l'arrivée, ça a masqué les carences de Marquinhos et tu gagnes la Ligue des Champions pour la deuxième fois avec lui.
Là où je suis d'accord, c'est que dans le génie de Luis Enrique, il y a, j'ai un gardien qui a des problèmes sous pression l'an dernier sur les dégagements, je change mon plan de jeu. Là, tu as raison aussi. Ok, tout ça, c'est faisable. Mais c'est une réflexion très intéressante plus globalement sur l'effectif. Quand tu sors un Pacho de je ne sais où, puisqu'on ne sait pas d'où il sort quand il arrive et qui devient un des meilleurs décès du monde, d'Europe, quand tu prends Marquinhos qu'on pensait cramé et que tu arrives à le faire, finalement, tu le revitalises sur une saison Ligue des Champions. Quand tu prends, je peux te faire une liste comme ça très longue, il y a quand même un moment donné où tu dois aussi, là, pour des raisons physiologiques, hein, je parle simplement physiques, vu son âge et vu les problèmes de vitesse,
de dire qu'à un moment,
la question quand même.
La baisse, il faut que ce soit pas dans un match de Ligue des Champions.
Je vais plus loin. Il faut que dans le recrutement, je maintiens, parce que peut pas tout jeter par rapport à ce qu'on disait. Je pense que Zabarni, c'est quand même très compliqué. Il faut que tu trouves une solution. Je veux dire, même si Marquinhos, comme tu l'as dit, tu peux continuer peut-être en le gérant Ligue des Champions pour l'an prochain, il faut que sur ce poste-là, tu trouves une solution parce qu'il va y avoir une succession à avoir.
Flo, tu prends pas Konaté qui est libre là en fin de saison ?
Bah, par exemple.
Il a confirmé aujourd'hui qu'il quitterait Liverpool.
Je suis d'accord.
Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas échec, tant qu'il n'y a pas défaite en Ligue des Champions,
il faut avoir un coup d'avance une fois dans la saison. Il n'arrive
jamais. Non, mais arrêtez. Ce coup d'avance avec les équipes qui ont gagné n'arrive jamais. Les équipes qui gagnent jusqu'à ce qu'il y ait défaite. Les équipes qui gagnent, elles sont reconduites jusqu'à ce qu'il y ait l'échec.
Donc, d'après toi, ils vont pas se positionner sur Konaté, ils vont pas essayer de le faire.
Je sais pas, mais en tout cas, moi, je dis que Marquinhos, à chaque fois, il y a des doutes, et à l'arrivée, tu gagnes quand même des
équipes. Konaté, là, pour le coup, quelque chose de fort. Marquinhos ne joue pas qu'en Ligue 1.
Ça, c'est pas possible. Enfin, je pense, surtout par rapport à l'âge de Marquinhos. Moi, je vais te donner un exemple.
Et c'est un symbole aussi. C'est un symbole du club qui va au-delà du joueur qui le représente.
Mais c'est pas, oui, mais quand même. Non, mais là, sinon, tu fais de la calinothérapie. Ah, bah oui, mais c'est le symbole, on n'y touche pas. Moi, je pense que
tu gagnes la Ligue des Champions avec lui. Donc il y a importe, et symbole et les résultats gagnée. Sur le terrain.
Moi maintenant, si tu me dis projection 2027, je te dis attention, il y a un autre projet. Je vais te donner un exemple qui n'a pas marché d'ailleurs. Mais pour moi, c'est une tentative d'avoir un coup d'avance. C'est le coup du gardien. Moi, c'est très fort et très dur et très courageux de dire Donnarumma, merci, au revoir, bonsoir. Je prends Lucas Chevalier. C'est un échec. Il s'est planté là-dessus, si on veut, dans le recrutement, oui. Puisqu'il a pas réussi. Ouais, mais c'était intelligent d'essayer d'avoir.
Il s'est planté. C'est également le joueur qui voit quelque chose de trop grand pour lui.
Peu importe. Ce que je veux dire, le résultat n'est pas bon. Mais moi, je pense que l'idée est excellente. Avoir un coup d'avance, avoir le coup qui te dit, moi, je pense que ce gardien-là est insuffisant. Je vais essayer d'en trouver un meilleur. Et bah, pareil pour le DC. Pareil
pour les autres joueurs. Tu continues avec Safonov.
Flo, pour prolonger ce que tu dis, c'est qu'on
trouve un meilleur.
Valide.
Un meilleur que Safonov.
Pour prolonger ce que tu dis, c'est que si ils ont réussi à limiter la casse sur ce mauvais choix avec Chevalier sur cette saison-là, dans un poste aussi spécifique que le gardien, sur un poste de décès avec Konaté qui arriverait libre, je suis pas sûr que ce soit un choix qui te mette autant en danger, parce que si en fait Konaté il est pas bon ou Zabarni, tu remets Marquinhos, si Konaté est très très fort, Marquinhos il sera l'âme de l'équipe, mais sur le banc.
Marquinhos il va comprendre, je suis d'accord avec Walid. Marquinhos est assez intelligent, il a fait assez pour le club,
il sera
pour s'effacer de lui-même.
Maintenant, Jean-Louis a raison. Il a été monstrueux au retour contre le Bayern. Et ce soir, hormis la petite cagade, il s'est très bien repris.
Il a fait le contre. À un moment donné, c'est sauvetage.
Julien Laurence nous rejoint, les gars, depuis Budapest.
Très importante.
Ouais. Julien, bonsoir.
Salut, Julien.
Salut, Gilbert. Salut à tous.
Bon, Julien, tu es allé voir les gars d'Arsenal, là ?
Un petit peu, ouais. J'ai croisé Timber, j'ai croisé Saliba aussi.
Tout à l'heure, on avait Manu, Dugas et tout, qui globalement disaient, franchement, quand t'es Arsenal ce soir, tu dois quand même, en gros, t'en vouloir d'avoir pas tenté grand-chose, quoi.
Ouais, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord aussi. Après, ce qui pouvait leur arriver de pire, et arriver de pire à cette finale, finalement, c'est le fait qu'ils marquent si tôt. Hein. Parce que je pense que ça a encore amplifié le plan de jeu qui était déjà de pas trop s'ouvrir, de pas laisser trop d'espace au PSG. Et que quand tu mènes en plus après 6 minutes de jeu, tu le fais encore plus et tu retombes sur tes bons ressorts en tout cas, parce qu'on sait que Arteta a créé une machine à ne pas encaisser de but, une machine à bien défendre, une machine sans ballon. C'est ce qu'on avait dit toute la semaine dans toutes les émissions qu'on a faites. S'il y a une équipe qui peut faire déjouer le PSG, c'est bien celle-là. Alors c'est pas beau, bien sûr, je suis d'accord, c'est 28% de possession de balle, c'est pas génial, mais ça a été très efficace jusqu'à l'erreur de Mosquera.
Si, bien sûr. Oui. Salut les
gars. Oui, Julien, tu peux continuer.
Oui, non, je dis, jusqu'à l'erreur de Mosquera, le plan, il marche parfaitement. Alors après, qu'on ne soit pas d'accord avec le plan et qu'on n'aime pas ce genre de football, je comprends très bien. Mais le plan, jusqu'à l'erreur de Mosquera, qui reste un jeune joueur, c'est un 1-2 tout simple. Hein. C'est un 1-2 qu'on travaille dans les écoles de football. C'était pas, il est un peu en retard, il fait faute. Et après, à partir de là, le match change complètement. Mais c'est cruel parce que tu es à un tir au but de remporter la Ligue des Champions. Mais tu peux te dire aussi que tu aurais pu faire beaucoup plus, même avec ton avantage d'un but.
Je vais te donner un exemple et qui va rejoindre Gilbert l'évaluation, parce que je voulais parler d'Arsenal. Je voulais d'ailleurs au passage parler de Lewis Kelly, parce que moi je trouve que c'est un latéral au départ. Je trouve qu'il fait un boulot au milieu qui est absolument incroyable. Si on faisait l'évaluation d'Arsenal, et je vais te prendre un exemple puisque t'en as parlé, Julien, dans la semaine à juste titre, c'est Saka. Moi je trouve que ce genre de joueur là, c'est gâché, si tu veux, avec cette tactique là. Parce que Saka, il est incroyable, c'est un joueur énorme. Et puis à la fin, tu dis, ben ouais, mais le mec, qu'est-ce qu'il a eu comme munition ? Qu'est-ce qu'il a eu pour se mettre en évidence?
Je vais te dire même Flo, moi le match de Saka, pour moi il s'est résumé à une prise à deux de Kvaratskhelia. C'est-à-dire qu'il venait toujours fermer intérieur pour pas que Kvaratskhelia rentre sur son pied droit, ça
c'est spécial. Donc si tu veux résumer son match, ça fait mal. Saka n'est pas le chapeau 1, l'homme fort qu'on attendait à Arsenal.
Mais tu peux pas avec cette équipe-là, sans rien, avec ce plan de jeu.
Oui.
C'est ça. Moi je pense que comme dit Julien, moi je veux juste insister là-dessus. Moi j'entends Julien et moi j'arrive pas de me dire quand je regarde Arsenal à chaque fois, d'ailleurs je suis un peu frustré par ça. Parce qu'il y a sans doute des joueurs chapeau 1, mais le plan de jeu fait que non, c'est pas comme ça qu'il va être chapeau 1, effectivement, qu'on va le remarquer, qu'il va faire la diff. Moi je trouve que pour des joueurs comme ça, c'est un peu ce que disait Duga tout à l'heure, tu dois sortir du match en disant ouais, si on avait gagné, c'était cool, mais putain, j'ai rien fait.
Flo Saka, c'est un joueur 6 sur 10. C'est un très bon 6 sur 10. Mais le problème, c'est que quand il est utilisé comme ça, moi pendant la finale, j'ai vu Dembélé face à l'Argentine en 2022. Mm-hmm. Moi, j'ai vu un mec qui devait
jouer deuxième latéral.
Dembélé, c'était pas le plan de jeu, Walid.
Hein?
Dembélé, c'était pas le plan de jeu.
Non, c'était le plan de jeu avec Deschamps.
Dembélé, il est passé au travers, mais c'était pas le plan de jeu. Là, on lui a demandé de défendre avant d'attaquer.
Bah si, à l'époque, il a fait toute la Coupe du Monde à défendre.
À l'époque, on disait qu'il aidait beaucoup plus Koundé qu'il aidait Giroud, quoi, et qu'il y avait un vrai plan là-dessus. Moi, j'ai eu ce sentiment ce soir, et ça rejoint en fait Arsenal, parce que moi, je suis désolé, Julien, mais quand tu ouvres le score et que tu sais que la physionomie, elle est parfaite pour toi, quand t'as cette possibilité là, tu dois fracasser la porte de la Ligue des Champions. Et ils ont été beaucoup trop neutres, beaucoup trop stériles. Ils ont abandonné le ballon. Il y a un moment où moi je veux bien les équipes qui abandonnent le ballon, mais en transition tu dois faire plus mal à cette équipe du PSG. Tu sais, moi j'ai pensé à quoi quand ils ont mis l'ouverture du score, parce que le PSG, ils gèrent le momentum et ils repartent pas pied au plancher, parce qu'ils savent que s'ils prennent le deuxième but, c'est terminé pour eux. Moi j'ai pensé à Chelsea PSG, Coupe du Monde des clubs la saison dernière. Et Chelsea, ils avaient fait le match parfait parce qu'ils avaient continué à être impactants avec Cole Palmer. Et quand tu t'arrêtes de jouer de cette manière face au PSG, il y a un moment où avec la deuxième mi-temps, ils vont reprendre en main et ils vont faire ce football pour te mettre en difficulté. Et Arsenal, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes ce soir.
Il y a eu qu'un moment, et je l'ai remarqué, et c'est de manière très étonnante, je pense qu'Arteta leur a dit. Je crois que c'est 60e parce que j'ai regardé, où ils sont remontés très haut avec un pressing très haut, mais pendant deux, trois minutes. Ouais, et je me suis dit, là, s'ils veulent faire ça, et si Saka trouve un ballon là-dedans, on va peut-être les revoir. Mais ça a duré.
Je pensais qu'ils auraient l'intelligence d'alterner. Est-ce que c'est le fait de marquer aussi vite qui les a confortés en disant bon ben maintenant on va faire ce qu'on sait faire et tout, on va rester en braquage? Moi je pense que c'est hyper présomptueux. S'ils ont vraiment pensé ça, c'est très présomptueux parce que c'est le temps est très très long. Je pensais qu'ils étaient capables d'alterner, c'est-à-dire de faire ok, on a marqué, on va attendre, mais de temps en temps, hop là, on va leur mettre un petit coup de pression.
On va
essayer de bouger, de faire des variations.
Tout le monde est un peu à distance, donc faut pas se marcher les uns sur les autres. Julien, vas-y. Julien Laurence.
Non, juste, je voulais dire, l'occasion pour Havertz, celle que Marquinhos sort sur son tacle, là. Le jeu en triangle, Saka, Odegaard, Havertz, où il rentre dans la surface parisienne en première période.
Magnifique
là.
Action,
moi,
ça.
Pourquoi tu ne fais pas plus souvent ça?
C'est ce qu'on s'est dit.
Parce que là, sur ce côté-là, en plus, c'était bien passé et Havertz prend peut-être un petit peu trop de temps.
Ils étaient prenables, le PSG, défensivement.
C'est ça où j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont encore avec ce recul-frein.
Moi, je trouve, Julien, que derrière Hakimi et Nuno Mendes, il y avait la place et ils n'ont pas essayé de jouer. Parce que Daniel, quand tu dis, c'est ce qu'ils savent faire. Mais Arsenal, c'est une équipe chiante à mourir, mais qui a le contrôle du ballon en première ligue, qui a de l'occupation. Là, t'as pas d'occupation parce que c'est le PSG, il n'y a pas de souci. Mais fais-le, essaye de varier un peu plus. Et à aucun moment.
C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je pensais qu'ils feraient. Qu'ils essaieraient de varier.
Et à aucun moment, ils ont varié. Et puis surtout, il y a quand même sortie de banc, il y a 300 millions d'euros sur la table qui sort en sortie de banc. Zubimendi, 60 millions d'euros. Gyökeres, 70 millions d'euros. Madueke, Eze. Et t'as vu l'entrée des mecs techniquement? Mais si tu me dis que ces mecs-là, ils jouent à Brighton ou ils jouent à West Ham.
Là tu prêches à convaincu. Moi, ces mecs-là, j'ai jamais été convaincu.
Les contrôles de police qu'il fait Gyökeres à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est techniquement, mais c'est abyssal. C'est pas normal d'avoir.
Dis-moi, Julien. Il y a Nuno Mendes en zone d'interview. On va peut-être écouter une réponse.
Pour contrôler le match, aujourd'hui, on a bien fait ça, je pense. Et quand c'est pour souffrir, on a bien été. Donc, je pense qu'on est content.
Ouais, il est content. On va pas perdre de temps parce que j'ai plein de questions à poser à Julien. Julien, est-ce que à Arsenal, on crie au scandale d'arbitrage parce qu'il y avait un péno qui aurait franchement pu être sifflé en faveur des Anglais?
Ouais, sur Arte, sur Matt Wicker, Arteta en a parlé un peu dans sa conférence de presse après. Ouais. Il parle, il dit, c'est un peu similaire par rapport à celui de Mosquera sur Kvara. Et après, à partir du moment où l'arbitre ne donne pas, il sera, le VAR ne va jamais intervenir.
Ouais.
Je sais pas, moi je trouve qu'il se laisse tomber un peu Madueke. Mais,
on a dit que ça peut siffler. Mais moi j'ai regardé un petit peu tous les Anglais réagir là-dessus, les fameux consultants qu'on adore là. Et moi je veux bien, ils sont bons les consultants anglais, mais en fonction du club dans lequel ils ont joué, il y a une grosse influence. Hein. Alors évidemment le Roy Keane.
Ils disent quoi?
Le Roy Keane, c'est un scandale. Jamais il y a péno, mais mieux Roy Keane, lui c'est carrément. Comment ne pas, tu sais, l'espèce de dégagement raté par Saka où lui-même il se met le ballon sur la main au début de match.
Oui.
Comment l'arbitre peut ne pas donner pénalty au PSG là-dessus? Donc Roy Keane, c'est même pas qu'il déteste Arsenal, c'est au-delà. T'as Wayne Rooney, il dit, mais évidemment, il y a pénalty sur Madueke. Jamie Carragher dit, il n'y a pas pénalty. Tu vois, c'est franchement, tu dis, hey, dans quel club t'as joué? Je connais ta réaction, quoi. Ils sont peut-être bons, les gars, mais alors en termes d'objectivité, c'est un peu moyen. Hein.
Pour moi, c'est une zone grise, ça peut siffler. Après, moi, je trouve qu'avec le ralenti.
Mais alors dans ces cas-là, dit comme ça, oui, Walid, moi je suis absolument d'accord avec toi, ça peut siffler, sauf que mais quand on entend les consultants anglais, c'est vraiment en fonction du club dans lequel ils ont joué la réaction.
Moi je veux juste demander de vous poser une question d'ailleurs en même temps, parce que moi j'aime beaucoup l'arbitrage. Et la seule chose qui m'intéresse dans la façon dont ça a été arbitré, c'est que l'arbitre lui-même, qui était assez proche, a dit immédiatement il n'y a rien.
Il n'a pas voulu le siffler,
il n'y a pas péno.
Mais il peut largement le siffler.
Et la deuxième chose, à l'inverse, c'est les histoires du deuxième carton jaune de Mosquera, j'insiste, mais je voudrais juste savoir si je fais une erreur.
Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux un deuxième carton là-dessus.
Pour moi, il y a un deuxième carton.
Il y a faute, il y a péno. Basta, le deuxième carton.
Mais bon, après, peut-être que je fais une erreur.
Qu'est-ce qui justifie?
Parce qu'il n'y a pas de double peine, Daniel.
Non, la double peine, c'est le carton rouge direct.
Voilà, c'est le carton rouge.
Mais pourquoi vous voulez un carton là-dessus?
Non, mais s'il y a
sur la surface, sur cette faute, elle est
tu donnes le péno, ça suffit déjà.
Mais ça le problème, Daniel, c'est que dans ton raisonnement, là, moi, je suis pas d'accord. S'il y a faute. Et qu'il n'y a pas pénalty à 15 mètres plus bas, tu donnes le carton jaune.
Bien sûr.
Bah pourquoi?
Parce qu'il est battu.
D'accord, mais je vois. Pardonnez-moi de ne pas mettre le carton là-dessus.
Ça n'a pas d'incidence.
Les cartons, je ne suis pas pour qu'on les dégaine vite. Donc c'est mon point de vue.
Bon, les gars, on va faire une courte pause et ensuite on va parler de la séance de tir au but. Il faut qu'on laisse Jean-Louis qui va se faire expulser du stade peut-être.
Ouais, pas loin. Vous avez donné le programme de demain, de toute la fête qui va y avoir.
Vas-y, donne-le. On laisse Julien aussi, parce que Julien aussi doit partir à l'aéroport, je crois. Salut Julien.
Ouais, merci les gars.
Ciao, ciao Julien.
Demain, ça va se jouer donc bien au Champ de Mars, tout d'abord. Ensuite,
100 000 personnes
l'Elysée. L'Elysée à 18h, puis le Parc des Princes à partir de 19h30. Et donc le Champ de Mars avant l'Elysée, donc dans l'après-midi. J'ai pu retrouver l'horaire là, mais ce sera toute l'après-midi de célébration. Et bien sûr, on sera là sur RMC. Hein, donc
tu seras au Parc des Princes demain soir.
Voilà, exactement. À partir de 14h au Champ de Mars, voilà.
Et 19h30 au Parc des Princes.
Au Parc.
Donc si je retiens bien.
Ok. Et 18h à l'Elysée entre les deux.
Ça marche. Salut Jean-Louis.
Salut
à demain.
Allez, ciao.
Dans un instant, on finit. Avant de passer la main à Karine Galli par la séance de tir au but, Thierry Barnera va nous rejoindre, spécialiste des gardiens de but. Toujours intéressant de décrypter
et le premier but de Safonov. Je veux savoir son avis.
Exactement. C'est tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot. Spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Il est 23h46, encore un petit quart d'heure ici avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau. Et tout à l'heure, on passera la main à Karine Galli, Walid Acherchour qui est là aussi d'ailleurs, Elton Mokolo, Maxime Chano qui vont continuer la nuit de fête dans l'after. Thierry Barnera nous rejoint, spécialiste des gardiens de but, formateur à la FIFA, qui est régulièrement avec nous dans l'after. Salut Thierry.
Salut à tout le monde.
Alors Thierry, on est super content de t'avoir parce qu'il faut qu'on parle de la séance de tir au but. Juste avant, le but encaissé par le PSG, on dit toujours qu'un gardien n'a pas le droit d'encaisser un but là quand c'est petit côté, angle fermé. En plus, il est là, Safonov. Et en fait, on a l'impression qu'il lève pas les bras. Alors qu'est-ce que tu nous dis de ce non-arrêt de Safonov?
C'est très simple, c'est que quand les distances sont courtes comme 5 mètres, tu peux pas avoir la vitesse de bras pour faire l'arrêt décisif. C'est pour ça que tu viens puis tu vas faire la croix. Moi, je viens d'envoyer une photo à Daniel. On voit très bien le ballon où il est. Si tu viens fermer, tu fais deux pas, tu fais la croix, tu vas la sortir la balle. C'est pour ça que toutes ces distances qui sont vers 5 mètres ou inférieures, on va pour fermer l'espace.
Donc en gros, ce que tu reproches à Safonov, c'est d'être resté trop proche de son but. sur ses appuis et de pas avancer pour fermer l'angle.
Ouais.
Parce que moi j'avais l'impression qu'il faisait le bon geste en faisant la croix, mais trop loin, quoi. Tu vois, de...
Il fait pas la croix. Il fait pas la croix. Ses appuis et il lève les bras, c'est tout.
Mais il met le genou un peu de travers, un peu bizarre. Ouais. C'est quoi?
Moi je crois qu'il fait une sorte de demi-croix.
Il descend un peu avec ses appuis, si tu veux, quand le mec il frappe.
Mais en gros, il a anticipé une frappe à ras de terre, pour faire simple. Enfin, tu vois, moi j'ai l'impression qu'il craignait quelque chose au sol.
Il essaie de prendre la place, mais tu sais, l'avantage c'est quand tu avances, tu prends beaucoup plus de place, c'est pour ça qu'il faut avancer. Mais lui, il n'est pas très à l'aise dans les croix non plus, sur certaines situations. Mais alors, c'est là-dessus qu'on doit aller.
Donc il y a une différence. Donc il y a une erreur de Safonov pour toi sur le début.
Si tu vois la frappe que Kvara fait, qui finit sur le poteau à droite, cette distance-là, tu es obligé de rester parce que c'est 8-9 mètres, tu ne peux pas aller, c'est trop loin, tu vois. Mais quand c'est à 5 mètres, il faut venir fermer. C'est là qu'on est décisif.
Ok. Bon, voilà pour ce
Et le match de Raya.
C'est un super match qu'il a fait. Il était hyper présent dans les espaces, il était très décisif. Il fait trois grosses interventions pour moi. Non, il était très propre.
En fait, ce qui me frappe chez Raya, c'est sa complétude. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, c'est-à-dire la sortie sur Barcola très rapide dans les pieds, la petite claquette là, à un moment donné dans la surface, les angles fermés, même sur la frappe de Vitinha, on dit oh là là, si elle avait été cadrée. Mais en fait, il y était Raya, j'ai regardé sur la frappe de Vitinha, donc il était là aussi.
Tu as dit, et si la frappe est cadrée, il la prend, tu dis ?
Ah ouais.
Il est
sur la trajectoire. En tout cas, il est très présent. Il est sur la trajectoire, très présent. Moi, j'ai trouvé. Et derrière, dans le jeu, évidemment, au pied. Et puis, et même dans la série de tirs au but, y compris dans l'intox et dans le fait de rester le plus longtemps possible. C'est
Coach Corbis qui
disait ça. Le plus longtemps possible, plus près. Et d'ailleurs, je crois que l'arbitre leur a dit, pour éviter ça, jouez pas au truc du je vais vérifier où est placé le ballon, tout ça, ces machins. Arrêtez ça et vous restez sur votre
ligne. Par contre, j'ai une question sur les tirs au but.
Vas-y, Walid.
Le toast là sur le fait de tirer en premier le toast pour tirer en premier et pour tirer devant les supporters, ils l'ont perdu deux fois Arsenal.
Parce que
s'ils l'ont perdu deux fois et qu'ils ont laissé le premier tir au PSG et jouer devant les supporters du PSG, je trouverais ça étonnant quand même.
Ce qui est sûr, c'est que la stat consiste à tirer en premier, enfin qui fait que tu tires en premier, c'est que en gros t'as, alors j'ai pas le chiffre exact, mais au moins 65% de série tirs au but gagnés sont pour l'équipe qui tire en premier. Non mais tu mets quand même une pression au deuxième tireur.
Après moi je pense que dans tir au but sur de tels matchs à telle intensité et tout, en fait tout est un peu
si tu considères que t'es fort dans ton travail de tireur, puisqu'on dit que c'est un geste technique globalement, à part il y a eu qu'un échec par exemple à Paris, si tu tires en premier et que tu marques, tu mets forcément plus la pression sur ceux qui viennent en deuxième. C'est ce qui s'est un peu passé d'ailleurs.
D'ailleurs sur la séance, alors Safonov, il avait fait une séance de tir au but exceptionnelle quand il en avait arrêté 3
coupe intercontinentale,
4. Donc là on se dit bon, le mec il nous a fait ça. Raya, sans doute, est un meilleur gardien de but que Safonov. Mais Thierry, quand on sait que Safonov est capable de faire ça, au début de la séance de tir au but, on se dit, bah tiens, c'est plutôt Safonov qui a l'avantage.
Et tu sais, c'est tellement l'instant présent. C'est tellement l'instant présent, c'est tellement la charge émotionnelle de chaque côté qui va faire la différence. Et si tu regardes les tireurs, regarde, moi j'ai analysé un peu, sur les 5 frappes des deux côtés, une fois seulement les gardiens sont partis du bon côté. Quand il fait l'arrêt sur le troisième avec le gaucher. Et puis le dernier, Safonov par juste, si tu veux, mais enfin il n'est pas cadré. Autrement, ils partent 4 fois du mauvais côté. Et ce que tu regardes qui est intéressant, un seul joueur a regardé le gardien. Un seul. C'est le deuxième tireur de l'Arsenal.
Tous les autres. Et Safonov d'ailleurs part très tôt sur ce tir au but là, sur le deuxième.
Exact. Mais il n'est pas cadré. Il est sur le côté à droite. Hein.
Moi je suis pas d'accord avec toi Gilbert. Dis-moi Thierry, moi j'avais l'impression que justement il a ralenti sa course pour faire partir le gardien. Je l'ai pas vu trop partir. Hein. C'est pour ça qu'il a mis à côté, moi j'ai l'impression. Mais bon.
Exactement, mais tu sais le problème que tu as, c'est quand tu fais ça en tant que joueur, tu as une pression énorme.
C'est clair.
Énorme. Et tous les autres joueurs, ils n'ont pas pris ce risque-là. Ils ont décidé où ils la mettaient, ils ont frappé. Comme Dembélé. Dans le match. Il décide de la mettre petit filet côté gauche pour lui, il la met à gauche. Allô ? Allô, allô.
Mettre. Alors qu'il en a mis plein. Enfin, Nuno Mendes, c'est plutôt un bon tireur.
Ouais, ouais.
Mmh. Bon, bah Thierry. Je crois qu'on a perdu Thierry.
Petit souci. Non, je suis là.
On il y aura beaucoup de gardiens à garder.
Et il y aura sans doute des séances.
Passionnant. Après, tiens, juste un point sur ça.
Excusez-moi, mais je tiens, Walid, on n'a pas parlé avec toi, mais gagner un titre sur une séance de tir au but, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc en plus? Vous voyez ce que je veux dire?
Quand tu gagnes,
sur l'espèce
de. Je te l'ai dit en ouverture, quand tu fais une année, tu la gagnes en mettant une raclée, et la deuxième année, tu la mets en gagnant comme ça,
t'as les deux bouts
des émotions.
Quand tu gagnes, c'est génial, et en plus, il y a une petite dramaturgie à l'intérieur de la série avec l'échec, le
rôle. L'année dernière, à 3-0, le temps il s'écoule, tu sais que tu l'as gagné. Là, ça arrive, c'est un coup près qui tombe d'un coup, c'est encore plus fort, évidemment.
Ce qui est très fort surtout, c'est qu'en fait, tu fais un back-to-back à 2 fois 17 matchs avec des équations à résoudre de dingue pour le Paris Saint-Germain, où tu as été en difficulté, pas en difficulté, une gestion de finale l'année dernière où ça se passe très très bien. Là, cette année, tu es mené au score, tu dois revenir, tu as les occasions pour gagner, tu gagnes pas, tu mènes au score dans la séance de tir au but, tu te fais rejoindre. Et en fait, cette équipe-là, mentalement, athlétiquement, physiquement, techniquement, en fait, c'est un VTT, quoi. C'est exceptionnel.
Les grosses roues, là.
Ah, exactement. C'est-à-dire que.
C'est un gravel. Non, mais
on a dit en avant-match contre le Bayern, ces matchs ping-pong, attention, le Bayern, c'est leur point fort, tu pourras pas les battre de cette manière. Là, c'est Arsenal, c'est rythme lent, c'est l'équilibre à outrance, le contrôle, attention, ça va être difficile. C'est une équipe qui, cours numéro 18, Roland Garros, ça fait des ronds, t'es là, ça joue très rapide façon Sinner, Alcaraz, t'es là, c'est en fait, tu montres que quoi qu'il arrive, t'es la meilleure équipe et qu'importe l'équation, t'es mené au score, t'es pas mené au score, bah, t'as toujours les ressorts et c'est monstrueux.
Ce qui était intéressant, c'est ce qu'Enrique a demandé à Safanov au niveau de ce jeu au pied. Première mi-temps, il a demandé de jouer long. Deuxième mi-temps, ils sont revenus en possession pour essayer de faire ressortir Arsenal. Et après, il a joué long, mais il a joué long dehors pour pouvoir aller chercher et les bloquer. C'est incroyable. Ça, c'est assez intéressant. Trois stratégies dans le même match.
Thierry, tout à l'heure, on se posait la question du gardien de but au vu de la saison prochaine. Toi, si tu étais conseiller du Paris Saint-Germain, tu vois la situation de Chevalier, tu vois ce qu'a fait Safonov, tu dirais, vous êtes le PSG, double tenant du titre, il vous faut un mec meilleur ou tu garderais le cheptel actuel?
C'est compliqué parce que tu gagnes comme l'année passée avec Donnarumma. C'est compliqué parce que tu gagnes avec un gardien, mais cela dit, c'est pas un top gardien, Safonov. Pour moi, il n'est pas dans les 6-7 meilleurs. Et si tu es PSG, je pense que tu dois avoir un gardien qui est encore supérieur à Safonov.
Alors là, dans ce cas-là, si tu es dans cette réflexion-là, côté Luis Enrique, tu sors Safonov, t'imagines? Et qu'est-ce que tu fais de Lucas Chevalier? Parce que soit tu le relances,
Lucas Chevalier, il faut qu'il parte et qu'il joue.
C'est pas compliqué. D'accord.
Pour moi, c'est très clair. Un jeune, il doit jouer. Il doit jouer et tu ne peux pas le laisser sur le banc, c'est pas possible.
Intéressant.
Ouais. Alors là, s'ils sortent et Chevalier et Safonov pour aller rechercher un meilleur, moi je dis go, hein, banco. Bon,
écoute, non, mais là, je parle foot et je parle pas business, hein, c'est différent, mais pour moi, c'est très clair.
Thierry, merci beaucoup.
Merci Thierry, à bientôt pendant la Coupe du Monde.
Avec plaisir.
Bientôt, Thierry. Salut Thierry.
Bravo encore. Allez, merci. Bye bye.
Un mot sur Safonov quand même. Il a toujours ce truc. Il est comme l'a dit Thierry à l'instant. C'est pas le meilleur gardien. T'as bien compris. Mais alors, courageux. Je crois que c'est un mot qu'on peut dire. Parce que la sortie encore qu'il fait là,
il est dans
où
l'esprit.
Se fait démonter la tête et où se tout.
D'ailleurs, on l'a vu deux fois faire courageux. Des têtes énormes.
Mais il relance
de la tête de 50 mètres.
Ah, non, mais il a un truc mentalement et sur le courage.
Moi, je continuerai avec lui. Gagné avec lui, tu continues avec lui.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas réglé leur problème du meilleur gardien. Tu peux encore avoir mieux. Moi, je continue à chercher.
Walid, tu fais quoi?
Moi, je. C'est une question très compliquée.
Il est reparti sur les toasts.
J'étais reparti là.
Bon appétit, Walid. T'as encore une heure d'émission. Une heure et demie, tu vas te régaler.
Ouais. Mais il n'a pas dit ce qu'il faisait sur le gardien, Walid. Ça m'intéresse.
Non, franchement, sur le gardien, c'est compliqué, Flo, parce que moi, Safonov, je l'ai déjà dit, c'est un gardien très fantasque qui me rassure pas, mais je pensais même qu'il allait faire une cagade sur l'épopée du PSG, et pour le coup, j'ai trouvé qu'il a été très J'ai trouvé qu'il a été très très offensif, il a été protagoniste dans tout ce qu'il a voulu faire, et il a dénoté avec Chevalier qui lui pour le coup nous donnait vraiment l'impression que le maillot était très très lourd à porter du Paris Saint-Germain. Donc maintenant moi j'ai pas ultra confiance en Safonov, mais il mériterait d'avoir une deuxième saison avec ce qu'il a fait, hein. Il a fait des gros matchs à Stamford Bridge,
il a progressé quand même.
Il va continuer.
Continue avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano, avec Karine Galli, et si vous êtes dans Paris faites attention. Il y a eu quelques affrontements périphériques envahis notamment, et on en est à 235 interpellations, hein, donc
malheureusement prévisible.
Malheureusement prévisible, exactement. Espérons que il n'y ait pas de faits graves cette nuit, que la célébration se passe bien. L'after continue jusqu'à 1h30 du matin. Demain, donc, sur RMC, le retour des joueurs, le Champ de Mars, et le Parc des Princes ouvert demain soir. Là aussi, l'after, il sera. Nous serons de retour demain soir. Bonne nuit à tous. Ciao. Et l'after continue, bien sûr.
RMC, l'after foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.